Alors, on approche du moment où on va fêter Pâques, hein. Et je pensais à ça cette semaine. Et ça m'a amené sur un sujet. Je voudrais parler de la passion et de la passion. Dans Luc 22, 14, il est dit ceci. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, c'est Jésus qui parle, hein, et j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. D'autres traductions disent, j'ai ardemment désiré. J'ai regardé un petit peu dans le texte original. En fait, il y a une répétition du mot désiré, hein. Une autre traduction que je trouve très belle dit, d'un vif désir, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. Et donc, ça m'a amené à cette réflexion sur le désir. Pourquoi j'ai dit passion et passion? Parce qu'en fait, à l'origine, le mot passion, hein, vient du latin, qui voulait dire supporter, endurer, souffrir. C'est pour ça qu'on parle de la passion du Christ pour parler de sa mort et ses souffrances avant sa mort. Mais dans notre vocabulaire actuel, quand on dit passion, quelqu'un est passionné ou j'ai une passion pour, le mot a plus le même sens, hein. Et on parle justement de cette autre chose qui est j'ai un fort désir pour ou une envie de, hein, je suis passionné par. Et je trouvais intéressant cette idée que en fait les deux sens se rejoignent en Jésus. Parce que Jésus va vers ce moment de ses souffrances, de la passion dans le sens ancien du mot, et il leur dit, d'un vif désir, j'ai désiré partager ce moment avec vous. J'avais déjà parlé de ça il y a longtemps, mais j'avais été surpris à l'époque, hein, où je cherchais un petit peu le vocabulaire, surtout dans le Nouveau Testament, dans le texte original, de découvrir que c'est comme ça, c'est parce que le grec est comme ça, hein, les deux notions existent, mais il y a un seul mot pour désirer et convoiter. Hein. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ou alors lorsque Jésus dit j'ai désiré partager ça avec vous, c'est le même mot. Alors bien sûr, il y a une différence entre les deux réalités. Mais je trouve intéressant parce que ça nous rappelle une chose. L'homme a été créé à l'image de Dieu et il a été créé avec du désir. Hein. Lorsqu'un être humain n'a plus de désir, il y a plusieurs causes. Hein. Elles peuvent être chimiques, elles peuvent être émotionnelles, spirituelles, etc. Mais ça produit ce qu'on appelle la dépression et ça peut amener même à des extrémités graves. Parce que nous avons été créés pour fonctionner avec du désir. Lorsque tout a été faussé, hein, dévié dans notre beau jardin initial, il y a eu un souci, et puis les hommes ont, comme d'habitude, mal interprété les choses. Puisque désirer quelque chose de mauvais était mauvais, on a décidé que le désir était mauvais. Ça, c'est la religion. La religion a juste dit, OK, il ne faut pas désirer des mauvaises choses, supprimons le désir. Et maintenant, on va faire les choses par devoir, parce qu'il faut les faire, parce que c'est comme ça, parce que Dieu dit, faites ça, alors il faut le faire, par obéissance. Et l'obéissance a sa place, attention, hein. Mais j'aimerais un petit peu ce matin démêler ces deux choses-là, parce que, comme l'a dit Catherine au niveau des émotions, c'est vrai, on peut souvent ne pas savoir quoi faire avec nos émotions, en tant qu'être humain, mais particulièrement en tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est aussi la même chose avec le désir, hein. Et voilà, donc on va un petit peu se promener là-dedans. Dans l'épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, non, chapitre 1 Pierre 2, verset 2. Voilà, 1 Pierre 2, 2. Il dit ceci: comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment, hein, désirez, mais désirez ardemment même, le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Il continue son développement et au verset 11, il dit « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. » Et là, on voit comment Pierre a bien mis les deux choses. Hein. D'un côté, il dit « Désirez le lait pur de la parole », donc il fait une métaphore avec le fait que les pensées de Dieu sont quelque chose qui nous nourrit, hein, parce qu'il parle comme à des enfants, donc du lait. Et puis un peu plus loin, il dit « Attention, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. » Là, quand il dit l'homme, ça concerne aussi les dames, hein, les êtres humains. C'est en général toujours d'être mis de côté pour les mêmes, cette fois aussi. Quoi. Voilà. Et donc, on voit bien que le désir est le désir quelque chose de ni mauvais ni bon. Hein. On a été créé pour désirer et pour fonctionner par désir. Mais puisque nous avons été décentrés, perdu notre boussole initiale qui naturellement, hein, on peut dire qu'avant que Adam et Ève fassent le choix de se décentrer de Dieu et qu'ils deviennent le centre d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils tournent autour d'eux-mêmes, hein, ils désiraient naturellement ce qui était prévu qu'ils devaient désirer. Adam avait du désir pour Ève et Ève avait du désir pour Adam et ils avaient du désir pour les fruits des jardins qui étaient autorisés et ils avaient le désir de prendre soin du jardin et ils avaient le désir de rencontrer Dieu quand ils venaient les visiter le soir avec la brise. Et donc, ils désiraient ce qui était prévu pour eux et ça fonctionnait magnifiquement et merveilleusement bien. Lorsque les humains ont choisi de devenir Dieu, tout d'un coup, c'est moi qui décide ce qui est bien pour moi, sans consulter la pensée de Dieu, hein, sans qu'il soit au centre de ma vie. Et donc, le fonctionnement est toujours le même. Ah, dis, ça a l'air bien, et je désire cette chose-là. Oh, ça me plairait, et je désire cette chose-là. Et souvent, ce n'était pas ce qui était pour moi. Et le résultat, c'est que je me détruis. Alors, c'est important de comprendre ce fonctionnement-là, mais lorsqu'on voit, quand Jésus sur terre, hein, puisque Dieu, ben, pour nous, c'est quand même tellement abstrait, et Jésus nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pour nous, Dieu, oui, Dieu est esprit, etc. On peut avoir des idées théologiques sur Dieu, mais ce qu'on en sait réellement, on le sait bien sûr par la révélation, par la nature un peu, mais essentiellement par le Christ, hein, qui est venu sur terre, hein, et qui est ce mystère de cet homme-Dieu, qui va aller jusqu'à donner sa vie pour nous, ce qu'on va célébrer à Pâques. Et on voit que Jésus fonctionnait, oui, dans l'obéissance, mais il désirait les choses que son Père avait placées pour lui. Hein. Ce n'était pas juste, il faut le faire, ben, je dois mourir pour vous, je vais mourir pour vous, si vous voulez. Ce n'est pas agréable, mais il faut que quelqu'un le fasse, c'est moi qui le fais, je vais le faire. Hein. Et c'est là où on voit que, en fait, la religion... Là, quand je dis religion, c'est la religion en général, mais la religion chrétienne en particulier. Hein, pour régler le problème de désirer des mauvaises choses, a préféré simplifier en disant « Ouh, c'est, le désir, c'est pas bon. Hein. Et il faut la connaissance, l'obéissance. Et puis, si ça vous fait plaisir, c'est pas grave. Mais enfin, il ne faut pas trop aller loin dans ce domaine-là, parce que c'est déjà presque un péché. » Quand j'étais plus jeune, on avait une blague entre nous. Quand on mangeait quelque chose de très bon, on dit « c'est tellement bon que c'est presque un péché hein ». Qui dénote bien cette idée tordue de désirer et le plaisir, c'est pas bon. Quoi. Non, c'est Dieu qui a créé le plaisir. Le diable n'a rien créé dans le plaisir. Simplement, il nous fait miroiter un faux plaisir en nous poussant à désirer quelque chose qui n'est pas pour nous maintenant. Et ah, le résultat, ce n'est pas du plaisir ni du bien-être. Hein. C'est justement la culpabilité et le mal-être et l'insatisfaction, et etc., etc. Et on voit comment Jésus a accompli son ministère sur terre, j'allais dire avec beaucoup de désir. Hein. et là qui est résumé dans cette phrase, j'ai désiré ardemment, vivement, manger cette Pâque avec nous. Il y a 2 semaines, j'ai pu faire ce séminaire avec la Ligue, où j'ai repris ce thème qui me tient à cœur sur les cycles de la vie, hein, comment les choses fonctionnent entre elles. Parce que souvent, notre théologie, même si on n'est pas théologien, mais on a tous une théologie, hein, notre conception de la vie chrétienne, de Dieu, de la Bible, ressemble à des pots remplis de formoles avec des vérités dedans sur des étagères et des étiquettes. Doctrine de la foi, doctrine du salut, doctrine de ci, doctrine de ça, et puis, de temps en temps, on prend le pot, et puis on lit la composition de ce qu'il y a dedans, et puis voilà, et puis on le remet sur l'étagère. Alors, ce travail-là est utile pour comprendre comment les choses fonctionnent, hein, mais ce n'est pas la vie. La vie, c'est lorsque les choses sont connectées les unes aux autres, et une chose en produit une autre, qui en produit une autre, qui en produit une autre. Et ce qui fait que lorsqu'on comprend comment la vie fonctionne, on va mettre notre énergie, notre désir, notre volonté, notre patience et notre foi au bon endroit. Et c'est pour ça que la religion est une chose désagréable, c'est que ce n'est pas vivant. Et donc il faut un effort considérable pour essayer de garder une apparence de bien, et en réalité derrière c'est mort et c'est du travail, du travail, du travail. Hein. Mais tout ce qui est vivant demande des choses, mais ce n'est pas du travail. Un arbre ne travaille pas pour porter des fruits. Alors il lui faut de la lumière, il lui faut de l'eau, il lui faut de la température, mais il est vivant et il porte du fruit. Un enfant ne travaille pas pour grandir. Mais il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, il faut qu'il ait un rythme de vie, etc. Et on pourrait multiplier les exemples. Hein. Donc le vivant a des exigences, mais ce n'est pas du travail. Et le désir doit retrouver sa place dans les cycles de la vie, de nos vies spirituelles, pour que nous puissions fonctionner d'une façon, pas qui demande rien à faire, non, qui demande, mais où on met notre énergie, notre volonté, notre discipline au bon endroit. L'apôtre Paul le dit dans au moins 2 endroits, à la fin d'1 Corinthiens 13, et puis aussi dans 1 Corinthiens 8, 1. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Et littéralement, là c'est traduit orgueilleux, mais rempli de vide. La connaissance gonfle, les vieilles traductions disaient, c'était correct. Hein. Le sens, c'est, ça fait, mais il n'y a rien à l'intérieur, quoi. Et l'amour, lui, il construit, hein, dans le sens de construire la vie. Et là aussi, si on ne met pas les choses à leur place, on peut dire alors, ben, il n'y a plus besoin de connaissance. Ah non, il faut de la connaissance. Mais il faut comprendre quelle est sa place dans le cycle de vie qui fonctionne avec le désir. Hein. Pierre dit « Désirez ardemment le lait spirituel et pur de la parole. » Nous vivons une époque où je suis quand même assez... je ne trouverai pas le bon mot. À la fois attristé, impressionné, abasourdi, ce serait peut-être le mot, hein, par l'inculture des croyants, surtout les jeunes. Quoi. Mais ils savent rien, mais rien, de rien, de rien. J'ai récemment déménagé une étagère de ma bibliothèque dans le bureau ici. J'ai dû déplacer 100 livres. Et je me suis dit, c'est pas pour faire le vieux qui dit de mon temps c'était mieux, hein, mais je me rappelle quand j'étais jeune, je sais pas, j'avais 300-400 livres sous mes yeux, on les avait tous lus ces livres, on en parlait. Hein, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Pas que c'était même pas la Bible, mais je sais pas, on avait une soif de connaissance, et on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui où on peut vraiment avoir tout sous la main, où on peut, hein, on attendait 3 mois pour trouver un livre, on ne savait pas où le trouver, on le trouvait plus, c'était compliqué, il fallait un livre. Aujourd'hui, on a tout sous la main, et la connaissance a complètement disparu parce que bon, on occupait autre chose. Mais en même temps, ce qui fait qu'on n'a pas envie de connaissance, c'est que les gens qui se sont spécialisés dans la connaissance aujourd'hui, et j'en compte parmi mes amis, continue de produire des bocaux dans du formol pour mettre sur les étagères, c'est pas très motivant. Hein. Alors, de temps en temps, il y a quelqu'un, qui, parce que intellectuellement, c'est son domaine, qui dit « Ah, il va se lancer dans la production de bocaux de formol et puis découper encore plus finement la patte de la grenouille pour savoir que le tendon... Mais alors que on a besoin de désirer ardemment le lait de la parole, c'est-à-dire, ça ne s'invente pas. Pour faire de la farine, il faut du grain. Hein. Si je nourris pas mes pensées, ma réflexion, avec les pensées de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Si je ne mange pas, hein, je suis un être humain, si j'arrête de manger, Virginia a essayé, mais ça y est, il paraît que ça va mieux depuis ce matin, elle a repris à manger. Hein. Mais si mois après mois, année après année, j'arrête de manger, je meurs. Hein. Alors heureusement, en tant qu'enfant de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, c'est une semence qui ne peut pas mourir. Mais juste, elle ne va pas pousser, ça va rester une petite graine, et puis voilà. La biographie de notre vie, quand on va arriver au ciel, sera « il est né et il est mort ». Et puis il n'y a rien entre, quoi. Hein. Voilà. Dieu nous aime quand même, on va quand même au ciel, c'est super et tout, mais voilà. Hein. Mais la vie a besoin d'être nourrie, et la nourriture commence par la connaissance. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Et là, c'est du travail, et ça demande de la discipline, parce que ça ne bouleverse pas forcément notre cœur d'étudier la Bible, de méditer, de lire. C'est quelque chose qu'il faut faire, parce qu'il faut le faire. Sauf que, si on n'a pas compris comment ça fonctionne dans le cycle de vie, alors on fait ce que les chrétiens appellent le culte du matin, hein, c'est la corvée spirituelle à faire, comme les gens qui ont un poêle à bois, le matin, il faut mettre du bois et sortir les cendres. Les gens qui ont un chien, le matin, il faut sortir, faire pisser le chien. Puis les chrétiens, le matin, ils lisent leur texte, plus ou moins rapidement. Et puis, ils ont fait leur culte. Et ils se sentent bien parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et on pense que c'est ça, la vie chrétienne. Mais non. Je mange le matin, ou à midi, ou le soir, ou la nuit, peu importe quand. Je mange parce que si je nourris pas la vie spirituelle qui a été mise en moi, elle meurt. Mais cette nourriture que je vais apprendre à désirer parce que j'ai compris ce qu'elle produit, hein, elle va produire la vie en moi. Et on va se retrouver dans un cycle de vie où le désir et le souvenir du plaisir qu'a amené le désir m'amènent dans la discipline pour continuer de me nourrir. Parce que lorsque Pierre dit... désirez ardemment le lait de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Et là, en vue du salut, c'est pas ne plus aller en enfer. Hein. Le salut de nos âmes, c'est chaque jour que nos âmes soient arrachées au vide, à la vacuité, à l'égoïsme, au néant. Hein, c'est ça le salut de nos âmes. Parce que le salut éternel, ne plus aller en enfer, c'est pas à nous d'y travailler. Christ l'a fait, tout est fait, c'est terminé. On doit y consentir et puis le comprendre, mais on n'a rien à faire. Mais nous, on doit travailler tous les jours au salut de notre âme, parce que notre âme est attachée à la poussière, notre âme ne tourne plus sur le bon axe, et elle est comme une roue voilée qui tic tout le temps. Hein. Et on doit, jour après jour, remettre Christ au centre pour que la roue tourne comme il faut, c'est ça le salut de nos âmes. Donc désirer ardemment cette parole, cette connaissance, ce grain à moudre, ces pensées de Dieu, qui vont nous aider, hein, grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. On parlait avec Marc, je ne sais plus, hier ou avant-hier, au téléphone, de cette période étrange qu'on vit. Et puis, on disait, pour certains, ces difficultés font qu'on se rapproche encore plus les uns des autres, on s'accroche à Christ. Hein, et pour d'autres, on se laisse emporter. Quoi, hein. Et... chacun a sa vie, il y a les rythmes, on juge personne, on ne peut pas et on n'a pas le droit. Hein. Mais je réfléchissais pour moi, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, je vais avoir la bonne réaction et dans l'épreuve m'accrocher, là, ou au contraire, vous me laissez aller. Hein. C'est justement si j'ai en mémoire ces moments où j'ai goûté combien le Seigneur est bon. Parce que quand on a goûté, le plaisir qu'il y a à vivre ces instants d'amour avec le Christ, même si on oublie, on va être insatisfait rapidement parce que le reste est fade. C'est pas mauvais, c'est pas forcément, je parle même pas du mal et du péché, hein, mais c'est fade. Et au bout d'un moment, on se dit, mais il y avait autre chose. J'ai le souvenir qu'il y a quelque chose de meilleur. Et, ah ben oui, oui, effectivement. Et là, je me rappelle combien le Seigneur est bon. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment important que quand on commence dans les premiers cycles de vie, on puisse vivre des choses fortes, intenses, vraies avec le Seigneur, parce que ça devient pas quelque chose où on veut retrouver en retournant dans le passé, mais quelque chose qui est inscrit en nous. Si un jour vous avez mangé salé, et épicé, etc., et puis qu'on vous donne à manger de la nourriture sans sel, sans sucre, sans rien, ça nourrit, hein, on ne meurt pas de faim. Mais cherchez la salière, il manque quelque chose, quoi. Vous cherchez les épices. Et puis un jour, on vous resserre un plat un peu épicé correctement, hein, pas trop de sel, attention, hein, mais ce qu'il faut. Ah oui, ça a du goût. Et je me rappelle que, hein, et dans nos vies spirituelles, c'est une des choses qui entretient ces cycles de vie. Parce qu'on ne vit pas tout le temps satisfait, rempli, bien, etc., quoi, hein. Mais dans les moments où ben voilà, je suis dans la phase d'hiver, on va dire, je me rappelle, on est en hiver, mais il y a le printemps, et puis il y a l'été, et puis il y a l'automne où on récolte, puis il y aura de nouveau l'hiver. Et j'ai le souvenir de ces choses-là. Hein. Il est dit de Marie, la mère de Jésus, qu'elle repassait toutes ces choses dans son cœur. Hein. Qu'est-ce qu'elle faisait ? C'est pas qu'elle vivait dans le passé, c'est que elle nourrissait son envie, son désir, des choses incroyables qu'elle avait vues, que Jésus avait fait quand il avait 12 ans au temple, etc., pour se propulser dans la suite, dans l'avenir, dans le présent déjà, bien sûr, hein, et continuer d'avancer. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très important, parce que souvent, nous, on oscille entre les deux choses. Hein. Parce qu'il y a, je ne l'ai pas dit ça, mais il y a deux sortes de mal, au singulier mal. Il y a le fait de désirer ce qui est mauvais, et il y a le fait de ne pas désirer ce qui est bien. Et nous, les chrétiens évangéliques, on est plutôt dans la deuxième catégorie, parce que désirer ce qui est mal, ça nous arrive, hein, mais on sait qu'on fait mal, voilà. Donc on le fait, ben, il ne fallait pas le faire, ah, j'ai mal agi, je demande pardon, et puis etc. Attention, des fois, si on se laisse aller, les conséquences peuvent être chères à payer, mais c'est un autre sujet. Mais par contre, souvent, on n'est pas conscient du fait que la majorité de nos péchés, si je peux dire, c'est pas de désirer le mal, c'est de ne pas avoir de désir pour le bien. Quand je dis le bien, c'est pas juste dans un sens moral, ce qui est bien, hein. Ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler, pas mettre les doigts dans son nez, pas mettre les coudes sur la table, dire merci à la dame. Non, ça c'est la politesse. Ce désir qui a fait que Christ a dit « Je les aime tellement, c'est un mystère, hein, mais dans l'éternité passée, hors du temps, il vous a vu, il m'a vu, il a vu tous ces êtres humains qui allaient consentir à son amour et il a désiré donner sa vie. » Jésus dit « Personne ne me prend ma vie, je la donne. » Et il a désiré venir sur terre. Dans Philippiens, quand il est parlé de l'incarnation, il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé de sa divinité, parce qu'il a désiré ardemment venir nous rencontrer, nous trouver. Et pour ça, il fallait passer par la croix. Et vous voyez comment le désir, quand il vise ce qui est bon, quand je dis bon, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous, hein, c'est pas juste le bien, alors c'est lui qui va nous donner l'énergie, la mise en mouvement et de par là la volonté, la discipline pour aller dans la bonne direction. Il y a un autre texte, je n'ai pas la référence là, qui parle de Jésus un petit peu avant la Pâque, hein, et qui dit, sachant que la Pâque arrivait, Jésus dressa résolument sa face vers Jérusalem. Ça c'est la version Darby, mais c'est ma préférée pour ce verset. Jésus dressa résolument sa face vers Jérusalem. Mais ce n'est pas que Jésus se disait « Ouais, chouette, je vais mourir, je vais souffrir, ah, c'est bien, ou ah, je vais souffrir. » Non, c'est « J'ai un désir. » C'est que des êtres humains puissent être réconciliés avec nous, nous Dieu, hein, dans le mystère de la Trinité. C'est un désir intense, d'une intensité qu'on ne peut pas imaginer. Et parce qu'il avait ce désir, alors la discipline et l'obéissance, hein, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, va faire qu'il va se mettre en mouvement et qu'il va dresser résolument sa face vers Jérusalem. Et on voit comment, juste avant la Pâque, quand on lit les textes dans les évangiles, il y a toutes ces choses qui arrivent. Il y a les Juifs qui veulent le faire mourir, il y a les disciples qui essaient de lui faire éviter la croix, il y a les Grecs qui viennent, qui veulent le faire roi. Il y a plein d'issues de secours qui sont là, et Jésus reste Jérusalem. Et j'ai désiré ardemment vivre cette Pâque avec vous. Et il va aller jusqu'à Gethsémané, et parce qu'il était humain et qu'il avait des émotions, et il va transpirer des gouttes de sang, et il aurait aimé que ses disciples soient là, et ils n'étaient pas là. Mais son désir pour nous était tellement fort qu'il a été jusqu'à la croix, et puis la résurrection, et puis... Hein. Mais maintenant, ça n'a pas changé. Au contraire, il a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse le rejoindre. Si nous avons goûté combien le Seigneur est bon. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pas trop, ce genre d'auteurs comme Madame Guyon ou ce qu'on appelle les mystiques. En général, c'était des dames. Les hommes ont du mal avec le vocabulaire amoureux dans la relation avec Dieu. Ça m'a demandé un énorme travail dans ma vie, presque 10 ans, avant de pouvoir dire « je t'aime à Jésus ». Pour moi, Jésus, c'était un homme, et je n'arrivais pas à dire « je t'aime » aux hommes. Et puis, c'était « ah, j'étais, hein ?» Puis je voyais mes amis, femmes, qui disaient « oh, je t'aime, Jésus, je t'aime !» Je disais « ouais, c'est plus facile, toi, c'est un homme, t'es une femme, non, c'est Dieu. Hein » Mais pour dire que le vocabulaire amoureux dans la vie spirituelle, il est présent dans la Bible, partout, et notamment dans le Cantique des Cantiques. Alors, pour moi, le Cantique des Cantiques, c'est d'abord une ode à l'amour humain et physique, hein. C'est son premier sens, je n'évacue pas ça du tout, je l'aime beaucoup, c'est très beau, c'est une poésie qu'on ne comprend pas toujours, mais elle est belle. Mais bien sûr, c'est aussi une image de notre relation avec le Christ, et je voudrais vous lire quelques extraits, puis je termine après. Hein. Donc, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1, là c'est la bien-aimée qui parle. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. J'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Est-ce que... Ça représente notre relation avec Christ. Ça devrait. Dans ces moments justement où on est vide, ouais, en saint, hein, je cherche celui que mon... Il est où, hein, c'est pas, et puis on est là, et puis ouais, on ne le trouve pas, mais on le cherche. Hein. Et puis, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Ça peut paraître un peu choquant, mais il y a un désir énorme là-dedans. Je cherchais celui que mon cœur aime, et je ne vais pas faire autre chose tant que je ne l'aurai pas trouvé. C'est l'attitude de Jacob qui se bat avec l'ange de l'Éternel toute la nuit, qui dit « je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni ». C'est Jésus qui dit « je ne renoncerai pas, j'irai à la croix jusqu'au bout ». Et c'est ce que Dieu veut que nous vivions par l'Esprit, dans nos cœurs. C'est ça la vie avec Dieu. Alors la théologie, c'est essentiel, parce que si je ne sais pas que Dieu m'aime, si je ne comprends pas qui il est, si je m'imagine qu'il est fâché avec moi parce que j'ai mal agi, toutes ces choses-là, je ne pourrais pas avoir cette relation d'amour. Mais c'est un outil, ce n'est pas le but. Paul, dans Corinthiens 13, dit « la connaissance passera ». Un jour, on n'en aura plus besoin. Elle est un outil. Mais l'amour demeure pour toujours. Hein. C'est la plus grande des trois choses qui restent. Quoi. Et dans l'amour, il y a du désir. Quand il n'y a plus de désir dans l'amour, ça peut faire de l'amitié. C'est très beau l'amitié, hein. C'est une des choses que je préfère sur Terre. Mais l'amour, c'est autre chose, parce qu'il y a du désir en plus. Hein. Deuxième texte un peu plus loin, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. J'aime beaucoup ce verset. « Et j'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Je ne sais pas pour vous, mais c'est souvent ma situation. Je vis quelque chose avec Christ, c'est magnifique, je suis transporté à l'intérieur, c'est beau, c'est fort. Et dans ces moments-là, je me dis, ça va durer toujours comme ça, c'est pas possible, c'est tellement fort. Et puis, 3 secondes et demie après, poup, comme Dora dans Le Petit Poisson Bleu, vous savez, dans Nemo, pour ceux qui regardent des dessins animés de Nemo, c'est un poisson qui a 15 secondes de mémoire à peu près, quoi. Et donc toutes les 15 secondes, bonjour, vous appelez comment ? Bonjour, vous appelez comment ? Nous sommes comme ça, nous les humains. Hein ? On a l'impression que ce qu'on a vécu est tellement fort que 15 secondes après, c'est Dieu, c'est qui ça, Dieu ? Ah oui, je sais, la Bible, le dimanche matin, on va à l'église. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Hein ? Et en même temps, parce qu'on a goûté combien le Seigneur est bon, je dormais, mais mon cœur veillait. On a l'impression que le feu est éteint, mais il y a une bonne braise dessous. Il y a juste de la cendre dessus. Et il faut que le vent vienne souffler dessus, et puis un peu de petit bois, et puis ça refait des flammes, ça repart. Et puis après, on mettra des belles bûches. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Et là, la réponse de la bien-aimée, mais c'est moi, J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je ? Toutes ces fois où je suis endormi, et puis Christ vient et puis il me dit « Hey, ça te dit un petit moment ensemble ? Écoute, je suis fatigué aujourd'hui, puis j'ai tellement de choses à faire, puis je dois faire la liste des courses encore, et puis je dois faire ci, puis je vais faire ça, mais plus tard, on verra. » C'est magnifique parce que, donc ça c'est sa réponse, et puis, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Tellement de fois, Dieu vient et me dit, c'est bon, je me suis douché, je suis en pantoufle, demain, dimanche au culte, on se verra. Et puis, il passe sa main par la fenêtre. Et d'ailleurs, les fenêtres de nos vies, c'est souvent ce que nous, on appelle nos blessures, nos imperfections, nos fêlures, tout ce qui fait que la lumière peut passer. Et il passe sa main là, et tout d'un coup, ça se réveille. Il y a eu un coup de soufflet sur les braises, et la flamme s'allume. Et c'est magnifique, parce que qu'est-ce qui se passe ? On pourrait s'imaginer, elle sort, il le retrouve, et c'est super, hop, j'en tombe. Non ! L'amour, ça me retourne toujours, vous savez. Mes entrailles se sont émues pour lui, c'est super. Je me suis levé, enfin elle fait ce qu'il faut, pour ouvrir à mon bien-aimé, de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Donc ça sent bon l'amour partout. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. Et ça, c'est magnifique, parce que le désir vient de là. Quand je fais les cours de préparation au mariage, il y a un des thèmes qu'on aborde l'avant-dernier de mémoire, que j'aime beaucoup, ça s'appelle « Amour, possession, une marche sur la file du couteau ». C'est compliqué pour les chrétiens, l'amour, parce qu'on se jure fidélité, parce que c'est ce que Dieu veut. Et nous, on traduit, puisqu'il est à moi ou puisqu'elle est à moi, c'est un peu comme les assiettes sur l'étagère et les couverts dans le tiroir, c'est à moi. Donc, je n'ai pas besoin tous les jours de... Oui, mais l'amour, c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, le Cantique des Cantiques dit jamais « elle est à moi », il dit toujours « je suis à lui » ou « je suis à elle ». C'est pour ça que j'aime pas dire « ma femme ». Des fois, je le dis, j'ai pas le choix, mais c'est trop long. Mais j'aime dire la femme à laquelle j'appartiens. Ou la fille avec qui je voyage, mais ça, c'est Francis qui dit ça. De la même façon que quand les gens souvent me disent « Comment va ton église ?» L'église ne m'appartient pas. Tu veux dire l'église à laquelle j'ai été offert ? ben, il m'accepte encore. Mais ce n'est pas à moi, je lui appartiens. Et dans ce mystère de l'amour et du désir, il y a du jeu. Dieu aime le jeu, hein, le jeu amoureux, c'est Dieu qui l'a inventé. Et quelque chose qui est toujours là, ben c'est là, et ça tue le désir. Et c'est compliqué, parce que je ne peux pas conseiller aux jeunes qui vont se marier, écoutez, de temps en temps, menacez votre conjoint d'aller voir ailleurs, comme ça il y aura encore du... Non, on ne peut pas dire ça. Mais en même temps, si je considère que mon mari ou ma femme, c'est comme les meubles, ils sont à moi. Ouais, bof. Hein. Mais c'est pareil dans nos vies avec Christ. Alors oui, quoi que je fasse, Christ ne va pas me rejeter, il va toujours m'aimer. Et si je lui tourne le dos jusqu'à ce que je meure et que je meure et je suis son enfant, il sera quand même avec lui pour l'éternité. Mais, par contre, Christ, j'espère que je ne choque personne, mais est un amant merveilleux. Il sait entretenir le désir. Et donc, il vient me chercher quand je n'ai pas envie, et il vient, et puis il passe sa main par une fenêtre, et là, je suis bouleversé, et je sors, et il n'est plus là. Et maintenant, c'est moi qui lui cours après. Hein, et c'est magnifique. Et vous voyez comment les cycles de la vie fonctionnent. Et en même temps, c'est très rationnel. Je dois nourrir, je dois me discipliner pour me nourrir. Je dois me discipliner pour laisser des espaces où on peut se rencontrer, parce que sinon ça ne va pas se passer. Des fois ça se passe quand même, mais voilà, moi j'ai ma part à faire. Hein. Et en même temps, je ne maîtrise rien. Parce que ce qui est magnifique dans l'amour, c'est que je lui appartiens, et donc je ne maîtrise pas. Hein, je peux décider de changer de meuble, de changer mes couverts, de changer ma voiture, mais l'amour, je ne décide rien. Je m'offre, je m'ouvre, je reçois... Je donne, mais il n'y a rien qui m'appartient. Et on est dans cette relation-là avec Dieu. Et c'est tellement triste de remplacer ça par bah, « il faut pas, c'est fait, c'est bien fait, c'est pas fait, c'est à faire. » Et puis on se dit « mais pourquoi les gens ne sont pas intéressés par l'Évangile ?» Bah, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est triste. Hein. Mais en même temps, c'est tellement plus simple. Parce qu'on fait ça, on fait ça, et puis c'est comme ça. Hein. Alors, simplement dans cette période où on médite sur la Pâque, ce que Christ a fait, hein, se rappeler que ce n'est pas la culpabilité qui motive. Christ n'est pas venu parce qu'il se sentait coupable. Hein. Il n'y avait pas de culpabilité à avoir de la part de Dieu. Il est venu par amour, parce qu'il a désiré vivre en communion avec nous. Il l'a désiré très fort. D'un vif désir, il l'a désiré. Comme il a désiré avoir de la communion avec ses disciples. Comme il a désiré nous rencontrer. Et nous devons apprendre à nous laisser aimer par Christ, mais à être des bons amoureux, des bons amants, si j'ose dire. Et à nourrir l'amour, en comprenant comment la vie fonctionne, hein, en nourrissant du lait de la parole, aussi en refusant les désirs de l'homme naturel, parce qu'ils font la guerre à l'âme, ils occupent la place, ils encombrent nos vies et il n'y a plus de place pour l'amour. Hein. Dans un couple, l'amour peut se perdre sans mauvaise volonté, juste parce que je suis tellement occupé par mon travail qu'il n'y a plus de place pour autre chose ou par n'importe quoi. Hein. Donc oui, il y a aussi cet aspect-là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de lutte, qu'il n'y a pas de combat, et en plus on a le diable, je n'ai même pas parlé de tout ça. Hein. Mais quand même juste de nous redonner une perspective dans cette période de Pâques, penser à la passion comme étant le fruit de la passion. Et de se dire qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, ou plutôt qu'est-ce que je peux laisser Dieu faire, ou quelle est ma part à moi pour que la passion revienne dans nos vies. Et ça, c'est possible à cause de la passion du Christ. Et puis, quand on vit comme ça, on ne se pose pas la question « comment je peux témoigner d'eux ?» Quand on aime, ça se voit, ça se sent. Et je ne l'ai pas mentionné, ça ferait trop long, mais on a juste avant le texte que j'ai lu où Jésus dit « j'ai désiré vivement manger cette Pâque », il est à Béthanie et il y a Marie qui vient et qui casse ce vase qui vaut 10 ans de salaire. Sa dot probablement, pour mettre sur les pieds de Jésus, essuyé avec ses cheveux. Et puis Judas est offusqué. Hein. Oh, tout cet argent gaspillé, on aurait pu le donner pour les pauvres. Et Jésus dit, elle a fait ça pour ma sépulture. L'amour et le désir sont prophétiques. Ils nous font faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées, mais que intuitivement on va faire, et en fait elles ont du sens. La seule qui a accompagné Christ, on pourrait dire, dans cette intuitivement cette idée qu'il allait se sacrifier, c'était Marie, qui passait du temps à ses pieds, hein, et qui va faire ce cadeau, et Jésus dit non, vous critiquez pas ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, je vais lui faire moi aussi un petit cadeau. Partout où on annoncera cette bonne nouvelle dans le monde, on parlera de ce qu'elle a fait. Hein, et on le sait encore aujourd'hui. Et c'est magnifique. L'amour sent bon. Aux uns, une odeur de vie qui mène à la vie, aux autres, une odeur de mort qui mène à la mort. Hein, mais ça sent. Et puis, chacun après fait ce qu'il a à faire. Alors, laissons-nous retrouver la passion en méditant sur celle du Christ. Seigneur, merci pour ce désir que tu as eu pour nous. C'est trop grand pour nous, mais justement, c'est ça qui est merveilleux. C'est plus grand que nous. C'est magnifique. On est émerveillé par cet amour, par ce désir que tu as eu d'aller jusqu'au bout pour nous. Et nous voulons nous nourrir de ces pensées pour laisser l'amour se développer dans nos vies à nous aussi. Nous voulons goûter encore et encore combien c'est bon de vivre avec toi. Être toujours émerveillé comme si c'était la première fois ou même mieux. Continuer de vivre dans ce déséquilibre, cette non-sécurité, cette intranquillité qui est la marche d'amour avec toi, cette danse où nous ne savons pas ce qu'il y a après, mais nous savons que tu nous aimes d'un amour éternel et nous voulons le danser avec toi, nous voulons le vivre avec toi, nous voulons, malgré nos cœurs fainéants, fatigués, tristes, oublieux, nous laisser éveiller encore et encore par toi et nous réjouir avec toi en désirant ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Amen.